vous souhaite un très bon réveil et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Difficile d'en placer une avec ce clown, il n'a rien d'intelligent en vous. Voilà le genre de politesse que se sont échangés Joe Biden et Donald Trump lors du premier débat télévisé pour la présidentielle aux États-Unis hier soir. Digne d'une cour d'école, raillerie, attaque personnelle et sur le fond, sur ce qui intéresse les dizaines de millions d'Américains. Les questions sociétales, raciales, l'économie et la pauvreté ont tout de même été abordées, vous l'entendrez.
La pauvreté à la une aussi en France avec les ravages de la crise sanitaire et l'alerte lancé par le Secours Populaire.
Familles monoparentales, personnes âgées, étudiants, mais aussi intérimaires ou travailleurs indépendants, personne ne semble plus à l'abri de la précarité.
L'homme qui voulait s'en prendre à Charlie Hebdo a été mis en examen et écroué hier soir pour tentative d'assassinat terroriste.
Ce ressortissant pakistanais a reconnu avoir menti sur son âge et sur son identité pour pouvoir entrer en France. À la une encore, le Premier ministre retrouve ce matin quelques membres de la Convention citoyenne pour le climat. Beaucoup de questions sur les choix de l'exécutif, sur la 5G notamment et sur la frilosité de plusieurs ministres à taxer le secteur aérien.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, qui le PNF, autrement dit le parquet national financier dérange-t-il ? Je poserai la question à Roselyne Letteron, elle est professeure de droit public à Sorbonne Université.
Une heure et demie de débat, ou plutôt d'invectives sur chaque sujet abordé. Le premier débat télévisé aux États-Unis entre le démocrate Joe Biden et le républicain Donald Trump n'a pas vraiment été dominé par les idées échangées, mais plutôt par des noms d'oiseaux. Le modérateur Chris Wallace, journaliste de Fox News, a même été contraint de hausser le ton pour tenter de remettre de l'ordre. Bonjour Benjamin Fontaine.
Bonjour Catherine, bonjour à tous.
Vous avez suivi ce débat aux États-Unis pour France Culture où les deux candidats, pourtant âgés de plus de 70 ans, se sont comportés comme dans une cour d'école.
Oui, vous l'avez dit, le maître d'école de la soirée, Chris Wallace, le journaliste de Fox News, a bien eu du mal à rappeler les candidats à l'ordre. Alors surtout Donald Trump, qui n'a pas cessé de couper la parole à son adversaire. Mais Joe Biden a lui-même traité le républicain de clown, lui a demandé de la fermer. Écoutez-le faire le bilan du président. Avec ce président, nous sommes devenus plus faibles, plus malade, plus divisé et plus violent. Quand j'étais vice-président, on a connu la récession, on m'a demandé de la réparer, c'est ce que j'ai fait. Nous avons laissé une économie en plein boom et il a provoqué la récession. Le fait est que j'ai tenu tête à Poutine, que je lui ai dit clairement que nous n'allions pas passer d'accord avec lui. Lui est le caniche de Poutine. Personne ne s'est ménagé. Donald Trump s'en est lui pris au fils de Joe Biden, l'accusant d'avoir reçu de l'argent de Moscou. C'est sûrement ce genre de moment qui fait dire à Aaron Kahl, spécialiste des débats présidentiels américains, que celui-ci restera comme l'un des pires de l'histoire.
Nous avons fermé le pays. Aujourd'hui, nous le rouvrons et nous battons des records. 10,4 millions de personnes en 4 mois qui ont retrouvé un travail. C'est un record. On n'a jamais vu un tel exploit. Et lui, il veut fermer l'économie. Il va à nouveau fermer l'économie. Il va détruire ce pays. Vous savez, il y a beaucoup de personnes entre la drogue, l'alcool, la dépression. Lorsqu'on commence à fermer, à confiner un pays, eh bien, on voit à quoi ressemblent les États gouvernés par les démocrates.
Et voilà, on entendait Benjamin, les rivaux à la présidentielle qui se sont chacun présentés comme la solution à la crise économique post-Covid, l'adversaire étant bien sûr une solution néfaste.
Effectivement, c'est ce que n'a cessé de rappeler Donald Trump, que l'Amérique ne s'est jamais aussi bien portée. Il en est convaincu, c'est ce qu'on vient d'entendre. L'année prochaine sera exceptionnelle selon lui. Il l'a dit plusieurs fois. Il a dit aussi que Joe Biden allait emmener les États-Unis dans le mur. C'est à ce moment-là que l'ancien vice-président s'est adressé face caméra aux téléspectateurs pour leur dire « Vous savez que la crise sanitaire et sa mauvaise gestion vous ont fait perdre des emplois ».
Les questions raciales, sociétales maintenant ont aussi été une source d'affrontement entre Joe Biden et Donald Trump, Benjamin.
Oui, ça a été un moment assez rugueux du débat. Trump a accusé Biden et les démocrates de laisser prospérer la violence. Est-ce que vous êtes pour la loi et l'ordre ? A demandé le président à son adversaire démocrate. Oui, a répondu Biden du bout des lèvres. Il a surtout expliqué qu'il voulait une justice équitable. Il y a eu un moment fort dans cette partie du débat. Chris Wallace, le présentateur, a demandé à Trump s'il condamnait les actions violentes des suprémacistes blancs. À cette question, le président n'a jamais répondu. Il a tout simplement fui.
Benjamin Fontaine en direct ce matin des États-Unis pour France Culture. Et à la fin de ce premier débat télévisé bien compliqué, on l'aura compris, le démocrate Joe Biden s'est engagé à reconnaître le résultat de la présidentielle du 3 novembre, tandis que le président sortant Donald Trump a esquivé cette question, se bornant une fois de plus à affirmer sans preuve que le vote par correspondance, qui s'annonce important en raison du Covid-19, favoriserait des fraudes. Prochain débat télévisé ou affrontement, c'est selon, ce sera le 15 octobre à la télévision. À noter encore, aux États-Unis, le groupe Disney annonce la suppression de 28 000 emplois au sein de son activité qui comprend les parcs d'attractions, les croisières, l'événementiel et les produits dérivés touchés de plein fouet par la crise sanitaire.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. La crise sanitaire en France marquée par une hausse des chiffres en réanimation.
Plus de 800 nouveaux malades du Covid-19 ont été placés effectivement en réanimation en une semaine et avec 8051 nouveaux cas confirmés de Covid en 24 heures en France, le taux de positivité des tests poursuit également son augmentation à 7,6% contre autour de 4% début septembre. Nous irons au CHU de Toulouse dans le journal de 7h30, déclaré hôpital en tension. C'est l'étape juste avant le déclenchement du plan blanc. La pandémie et sa déflagration sociale à présent. La précarité a de nouveaux visages, ceux que les associations de solidarité voient frapper à leur porte. Le Secours Populaire présente ce matin son baromètre annuel sur la pauvreté, largement consacré à l'impact de la crise sanitaire sur les personnes en situation de précarité. 1 270 000 Français et Françaises ont été aidés sur le plan alimentaire pendant les 2 mois de confinement. 45% de ces personnes étaient inconnues du Secours Populaire, Catherine Pétillon.
Il y a ceux qui avaient trouvé un travail, stabilisé leur situation, mais mis en difficulté au moment du confinement, ont dû revenir frapper à la porte du Secours Populaire. L'association a aussi vu arriver de nouveaux publics. Près de la moitié des personnes qu'elle a aidées pendant cette période n'étaient jamais venues. Leurs profils sont divers, mais ils partagent une grande fragilisation de leur emploi. Ce sont des travailleurs intérimaires, saisonniers ou encore des auto-entrepreneurs qui se retrouvent sans mission, des intermittents du spectacle, des commerçants en difficulté, des salariés aux revenus amputés par le chômage partiel ou encore des étudiants salariés privés de petits jobs et non éligibles aux prestations sociales. Au cœur de leurs difficultés, manger correctement. Les demandes d'aide alimentaire auprès des permanences d'accueil du Secours Populaire sont en hausse de 45%, une augmentation qui arrive alors que déjà en 2018, 1 Français sur 5 avait du mal à se nourrir. Autre risque, alerte l'association, 19% des parents éprouvent des difficultés pour payer la cantine scolaire. Selon le baromètre qu'elle publie avec l'Institut Ipsos, 40% des Français, dont 64% des plus modestes, se restreignent sur la qualité de leur alimentation pour des raisons financières. Ils sont 1 sur 3 à avoir subi une perte de revenus pendant le confinement.
À Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, le Secours Populaire reçoit, lui, 2 fois plus de monde qu'avant le confinement. C'est l'estimation de la responsable de l'antenne, Annick Mauger.
Ce sont des personnes que nous ne connaissons pas. Donc, c'est des gens qui travaillaient, qui faisaient peut-être des petits boulots à droite à gauche et qui se débrouillaient tout seuls. Et là, maintenant, ils se retrouvent vraiment sans rien. On a de plus en plus de jeunes qui ont moins de 25 ans, qui n'ont droit à rien, n'ont pas droit au RSA. Et donc, ils ont vraiment une situation précaire parce que comme ils ne trouvent plus de petits boulots, ils n'ont aucune possibilité pour manger, pour vivre. Donc là, ceux-là, on en a quand même pas mal des nouveaux. On a plus de 3000 personnes par mois. Et c'est énorme parce qu'on reçoit tous les jours. Donc là, ce qui nous manquait, c'était des bénévoles. Parce qu'on avait 80 bénévoles actifs et on n'en a plus qu'une trentaine. Beaucoup de bénévoles déjà sont âgés et ne reviennent plus du tout. Ça fait donc vraiment un grand vide parmi nous. Et là, ça y est, j'ai un peu sourire parce que là, j'ai recruté des personnes là, et j'espère que ça va rebondir.
Annick Mauger, responsable de l'antenne du Secours Populaire à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor. Chose promise, chose due, le Premier ministre Jean Castex retrouve à 9h, dès 9h ce matin, une vingtaine de membres de la Convention citoyenne pour le climat. Cette assemblée de citoyens tirée au sort après la crise des Gilets jaunes. Et le gouvernement va devoir avant tout rassurer des citoyens un peu inquiets, voire franchement remonter sur les choix de l'exécutif, Rosalie Lafarge.
On a clairement beaucoup de questions, on attend des réponses, lâche un peu agacé un des 150 participants à cette convention citoyenne. Les dernières sorties du président sur la 5G et les Amish, mais aussi de plusieurs ministres, pas franchement favorables à la proposition de taxer le secteur aérien, tout cela a du mal à passer auprès de certains membres de la convention. Ce que demandent ces citoyens, c'est un peu plus de visibilité sur le calendrier, la méthode, les arbitrages encore possibles. Ils veulent en fait savoir ce que vont devenir leurs propositions. C'est tout l'objet de cette réunion, ce matin. matin. L'exécutif prévoit de faire le point sur les différentes concertations menées ces dernières semaines, de revenir en détail sur les mesures de la convention intégrée dans le projet de loi de finances 2021 et de tracer la feuille de route jusqu'en décembre. C'est à ce moment-là que doit être présenté le projet de loi convention citoyenne en Conseil des ministres. Le gouvernement a la volonté de clarifier et d'apaiser, assure-t-on dans les couloirs de Matignon. Nous, on a surtout besoin de savoir qui pilote et qui aura le dernier mot, tranche d'ores et déjà amer l'un des citoyens conviés à la réunion d'aujourd'hui.
L'homme suspecté d'avoir attaqué deux personnes vendredi armées d'un hachoir devant les anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris a passé la nuit en prison, mis en examen pour tentative d'assassinat. Anne Fauquemberg fait le point sur les derniers éléments de l'enquête.
Le suspect affirmait se nommer Hassan Ali et être né en 2002. Lors des dernières heures de sa garde à vue, confronté à un document de son téléphone, il a reconnu s'appeler Zahir Hassan Mehmoud et être âgé de 25 ans. Une identité qui doit encore être confirmée par le Pakistan, mais qui a conduit le procureur Jean-François Ricard à bien retracer le parcours de cet homme depuis son arrivée en France.
Il s'est présenté aux services sociaux du Val d'Oise le 17 août 2018, cette fausse identité de Hassan Ali, il a été alors pris en charge en tant que mineur non accompagné. Entre le 17 juillet 2019 et le 10 août 2020, toujours sous cette fausse identité, il a également fait l'objet d'un suivi en assistance éducative par un juge des enfants du tribunal de Pontoise. S'il ne bénéficie d'aucun titre de séjour, il avait un rendez-vous prévu le jour des faits à la préfecture du Val-d'Oise à propos de sa situation administrative.
Hier après-midi, à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a été interrogé sur la manière dont cet homme jeune a pu bénéficier d'une protection au titre des mineurs isolés. Il a rappelé que le département et le préfet du Val-d'Oise avaient fait leur travail, mais que le test osseux pour déterminer son âge avait été refusé par le juge. Test qui n'est pas à 100% bon, a reconnu le ministre, et dont la Ligue des droits de l'homme demande d'ailleurs la suppression. Gérald Darmanin, qui a promis de se saisir de cette question délicate en lien avec le garde des Sceaux.
La Cour de cassation se prononce aujourd'hui sur la remise à la justice internationale de Félicien Kabuga, accusé d'être le financier du génocide au Rwanda. Il aurait participé à la création des milices Hutu Interahamwe, principaux bras armés du génocide de 94, qui fit selon l'ONU au moins 800 000 morts, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. Le temps de ce mercredi 30 septembre, pluvieux sur le nord et le nord-ouest, plus ensoleillé partout ailleurs. Il fera au meilleur de la journée entre 16 et 23 degrés du nord au sud, comptez jusqu'à 25 en Provence et en Corse.